dernière fois que j'ai prêché, il y a 3 semaines, je vous ai proposé une réflexion sur la persécution des chrétiens. Une persécution qui, d'après la première lettre écrite par l'apôtre Pierre, est d'une part normale dans un monde contaminé par le mal, et d'autre part nécessaire en tant que première étape du jugement de Dieu. Un jugement qui commence par la maison de Lévi, selon l'expression du prophète Malachie, par le temple de Dieu, selon l'expression de l'apôtre Pierre, qui commence donc par les chrétiens. Une première étape du jugement de Dieu qui vise la purification de son peuple, purification indispensable au service, et qui vise également la sanctification de son peuple, sanctification indispensable pour voir, pour rencontrer Dieu. Au cœur de cette lettre sur la persécution, sur la souffrance, se trouve l'exemple du Christ. Je vous invite à lire au chapitre 3 à partir du verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, étant allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été rebelles, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, et les anges, les autorités et les puissances, lui ayant été soumis. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Le réformateur Martin Luther a écrit à propos de ces versets « C'est un texte merveilleux et peut-être plus obscur qu'aucun autre dans le Nouveau Testament, si bien que je ne suis pas sûr du sens de Pierre. » Voilà, cette citation nous invite à l'humilité. Ce texte est merveilleux parce qu'il nous invite à puiser dans l'exemple du Christ, souffrant et triomphant, la force de tenir ferme dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la persécution. Ce texte est obscur parce qu'il présente plusieurs difficultés d'interprétation, difficultés qui se trouvent résumées dans les 3 questions que je vais vous présenter. Juste avant cela, j'aimerais vous inviter à prier. Père, merci pour ce texte merveilleux. Et nous te prions pour que ton esprit illumine notre intelligence afin que nous en saisissions les aspects plus difficiles, plus obscurs. Nous avons besoin de toi, Père. Amen. 3 questions donc se posent quant au verset 20, quant au verset 19 en particulier. Étant allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont ces esprits en prison? Quand Jésus a-t-il prêché aux esprits en prison? Et que Jésus a-t-il prêché aux esprits en prison? Les réponses proposées par les spécialistes sont nombreuses. À la première question, qui sont les esprits en prison? Les uns répondent qu'il s'agit d'êtres humains, soit les justes de l'Ancienne Alliance, soit tous les êtres humains qui ont vécu avant Jésus-Christ, soit les contemporains de Noé, morts lors du déluge. Mais d'autres répondent qu'il ne s'agit pas d'êtres humains, mais d'anges déchus. Les anges rebelles qui avaient pris des femmes parmi les filles des hommes avant le déluge et qui sont depuis lors retenus en prison. À la seconde question, quand Jésus a-t-il prêché aux esprits en prison ? Les uns répondent que cette prédication a eu lieu entre sa mort et sa résurrection. L'esprit de Jésus serait ainsi descendu aux enfers, selon la formule du credo. Les autres, dont saint Augustin, répondent que la prédication de Jésus aurait eu lieu avant le déluge, par la bouche de Noé. D'autres encore répondent que la prédication de Jésus a eu lieu après sa résurrection d'entre les morts, soit avant son apparition aux femmes, soit pendant les 40 jours qui ont précédé son ascension, soit au cours de son ascension. À la troisième question, que Jésus a-t-il prêché aux esprits en prison ? Les uns répondent que Jésus aurait évangélisé les esprits en prison, leur prêchant la repentance. Les autres répondent que Jésus leur aurait prêché la justice. D'autres encore répondent que Jésus leur aurait proclamé sa victoire. Nous trouvons donc maintenant devant une multiplicité d'interprétations possibles. En réalité, elle se résume en trois propositions essentielles. Pour les uns, Jésus serait descendu aux enfers entre sa mort et sa résurrection pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut aux esprits des contemporains de Noé, retenus captifs depuis le déluge. Pour d'autres, c'est l'esprit de Jésus qui a prêché la justice par la bouche de Noé avant le déluge à des êtres humains captifs du péché. Pour d'autres encore, c'est après sa résurrection que Jésus a proclamé sa victoire aux anges déchus retenus en prison depuis leur révolte avant le déluge. La double question qui se pose maintenant à nous est la suivante. Quelle interprétation choisir ? Et surtout, comment choisir ? Est-ce qu'on tire au sort ? Est-ce que toutes les interprétations se valent ? Est-ce que choisir est trop difficile ? On laisse tomber ? J'aimerais vous soumettre la proposition de Mike McGowan, que certains d'entre nous connaissent, qui est pasteur à Saint-Lunaire, qui est également formateur avec Focus Bretagne, et qui a rédigé un excellent article dans la revue Théologie évangélique, la revue de la faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, un article intitulé « La structure en chiasme de 1 Pierre 3,17, 4.2 ». Selon lui, et je partage humblement son avis, l'unité et le sens de ce passage sont déterminés par sa structure chiastique. La structure en chiasme, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une structure en miroir, en reflet. Les parties se correspondent, se répondent deux à deux, et cette manière de structurer un texte est typique de la littérature hébraïque. Mike McGowan suggère une section plus large que celle qui est habituellement proposée dans nos Bibles. Elle débute au verset 17 du chapitre 3 et se termine au verset 2 du chapitre 4, car on trouve dans ces deux versets, chapitre 3, verset 17, chapitre 4, verset 2, une expression semblable qui marque une inclusion, la mention de la volonté de Dieu. Chapitre 3, verset 17, « To telema, to teu », si telle est la volonté de Dieu. Chapitre 4, verset 2, « Telemati, teu », selon la volonté de Dieu. La structuration à l'intérieur de cette inclusion est la suivante, les versets 1 et 2 du chapitre 4 répondent aux versets 17 et 18 du chapitre 3. Le verset 22 du chapitre 3 répond au verset 19 de ce même chapitre. Et les versets 20 et 21 constituent le cœur du chiasme. Alors, si cette structuration est exacte, et elle semble bien l'être, comment nous permet-elle de répondre aux trois questions soulevées par le verset 19? Puisque l'écho du verset 19, c'est le verset 22, alors les réponses s'y trouvent. Ainsi, les esprits en prison mentionnés au verset 19, ce sont les anges, les autorités et les puissances du verset 22. Le « étant allé » du verset 19 correspond au « étant allé » du verset 22. Il s'agit d'un seul et même mouvement, un mouvement ascendant en direction du ciel, après donc la résurrection de Jésus. Et l'accent qui est mis sur la résurrection du Christ dans le verset qui précède, le cœur du chiasme, renforce cette lecture. Le fait que Jésus a prêché à des anges rebelles, déchus, et non à des êtres humains, et qu'il l'a fait au cours de son ascension après sa résurrection, et non lors d'une descente aux enfers, implique que le contenu de cette prédication soit la proclamation de sa victoire. Et la soumission des anges, qui est indiquée dans le verset 22, confirme cette interprétation. Ce texte ne nous dit donc pas que Jésus est descendu en enfer pour annoncer l'évangile à des êtres humains, ce qui par ailleurs poserait de nombreuses difficultés, mais bien au contraire. Ce texte nous dit que Jésus-Christ est monté au ciel et qu'au cours de cette ascension, il a proclamé sa victoire aux anges rebelles. Et cet exemple éclatant du Christ souffrant et triomphant, exemple qui se trouve au cœur de cette lettre sur la persécution. Cet exemple est la source à laquelle les chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, peuvent puiser pour trouver d'une part les forces de tenir ferme et pour trouver d'autre part les forces d'espérer.